Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Père éternel, je te remercie pour cette occasion que tu me donnes d'être devant ton peuple, Seigneur. Tu as choisi de m'utiliser pour passer ton message. Je suis disposé, je prie que aussi les cœurs de gens qui vont écouter ta parole soient disposés. Afin qu'ils écoutent la parole, mais aussi ils puissent, Seigneur, mettre en pratique ce que la parole va nous demander. Merci, Seigneur. Sois sur moi. Parle à travers moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour m'avoir protégé pendant la semaine avec ma famille. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Peut-être à ceux qui ne sont pas présents, mais on espère que vous allez bien. Nous avons prié pour vous et nous savons que le Seigneur exauce nos prières. Amen. Alors, nous saluons aussi les gens qui sont sur Zoom. Soyez bénis et restez avec nous jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur veut nous parler. Il a commencé à nous parler, mais il continue à nous parler aussi à travers sa parole. Comme d'habitude, je vais demander à notre frère parfait d'avancer et de nous lire le passage de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 17 à 25. Alors, pendant que Parfait, nous lit la parole. Je vais demander aussi à Papa Antoine de se préparer pour nous lire aussi Job 2, verset 10 seulement. Job 2, verset 10. Parfait, vous pouvez commencer. Matthieu 10, 17 à 25.
Matthieu 10, 17 à 25. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son père à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et ils les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, n'est pas plus que le maître, pardon, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? 27 ou
Amen.
25?
25, oui.
25. Amen.
Que Dieu te bénisse. On va demander à Papa Antoine aussi de nous lire Job, chapitre 2, verset 10.
Job, chapitre 2, verset 10. Mais il lui répondit, tu parles comme un insensé. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur, mais ne recevrions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commet pas de péché dans tout ce qu'il dit.
Amen. Amen. Soyez bénis. Je sais que, dépendamment de votre version que vous utilisez, peut-être que vous allez avoir quelques mots qui sont un peu différents, mais le message général revient au même. Donc, c'est le même message, mais qui est écrit peut-être différemment. Alors, ce matin, je voulais vous partager un thème que j'ai intitulé La vie en Christ. Aujourd'hui, je donne l'introduction à ce grand titre parce que je pense que même mes prochains orateurs qui vont me suivre dans les prochaines semaines, ils vont toujours tourner autour de ce sujet parce que je trouve ça important en tant que chrétien de le savoir, de savoir comment vivre en Christ ou bien la vie en Christ, qu'est-ce que cela implique. Alors, ce n'est pas un sujet que je peux traiter tout seul, même aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit, peut-être je vais parler aussi à d'autres prédicateurs qui viendront après moi pour pouvoir préparer, mais en se référant toujours à ce grand thème. À travers ce thème, on va couvrir plusieurs sujets, bien sûr, qui nous aidera à comprendre dans quoi nous avons embarqué. Quand je préparais cet enseignement, j'ai réfléchi un peu. J'ai pensé à une personne qui aurait un projet d'immigrer dans un nouveau pays. Et ça tombe bien parce que la majorité d'entre nous avons immigré de chez nous, ici, à ici. Il y en a d'autres qui immigrent dans d'autres pays, Europe. Alors je me suis dit, mais avant que cette personne prenne cette décision, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il est censé de faire avant de prendre cette décision? Le matin, on a chanté, on a dit, j'ai aimé la chanson qui disait, je suis décidé de suivre Jésus. Et ça m'a touché parce que je trouvais ça comme une sorte de complémentarité à ce que le Seigneur m'avait donné dans son message. J'ai dit, cette personne qui vivait confortablement, peut-être, mais qui décide à un moment donné de changer d'environnement, d'aller vivre dans un milieu nouveau où il n'est pas grandi. Il doit d'abord se poser des bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui m'attend, c'est-à-dire les avantages que je vais avoir une fois arrivé là-bas ou des inconvénients que je vais avoir une fois arrivé dans un nouveau environnement. Suis-je capable de tenir? Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, il y a beaucoup de plateformes qui transmettent des informations. Il y a, vous connaissez pas mal, il y a YouTube qui est populaire. C'est juste si je vois, peut-être c'est différent d'il y a 10 ans ou 20 ans, mais je vois quelques émissions où les gens qui sont déjà ici au pays ou bien en Europe partagent la vie du Canada ou bien de l'Europe aux gens qui veulent immigrer de partout dans le monde. Je trouve ça important parce que ça aide à ces gens-là, à ces nouveaux migrants, à devenir avec des bonnes, je dirais, des réalités, des vraies réalités, parce qu'il y en a qui viennent seulement, qui pensent que oui, si je quitte mon pays, si j'arrive en Europe ou bien au Canada, comme vous savez que le Canada, c'est pratiquement le paradis du monde pour beaucoup. Alors, ils disent que oui, tout va changer, ça va bien, bien aller. Mais quand j'ai regardé certaines, je dirais, thèmes des émissions des YouTubers qui partagent ces informations sur la vie au Canada ou bien en Europe, j'ai dit oui, ça peut intéresser, ça peut aider ces gens-là. Même si ils vont leur dire qu'au Canada, il y a le froid extrême. Même s'ils ne vont pas quand même le sentir, mais au moins ça va travailler leur cerveau, leur mentalité. Quand ils vont arriver, oui, ils vont sentir le froid, mais au moins c'est comme s'ils seraient avisés. Alors, j'ai dit oui, C'est important aussi pour nous les chrétiens de savoir où nous vivons ou bien où nous souhaitons vivre. Si nous parlons de la vie en Christ, il faut savoir qu'il y a la vie en dehors de Christ aussi. Je me suis dit, un chrétien doit savoir comment vivre en Christ. La vie en Christ, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que la vie en Christ est seulement rose? Est-ce qu'on peut avoir des problèmes en Christ aussi? Comme vous le voyez, on a lu il y a des passages. Le passage que notre papa Antoine a lu dans Job, c'est un bon exemple de quelqu'un qui pense que vivre ou bien croire en Dieu, c'est être à l'abri du danger. Vous avez probablement lu l'histoire de Job. C'était un homme que la Bible nous dit irréprochable, qui était honnête aux yeux des hommes, mais aux yeux aussi de Dieu. Dieu lui-même a témoigné devant Satan que Job, c'est son enfant, c'est son bien-aimé, c'est quelqu'un vraiment que Dieu considère honnête. Si vous lisez le premier chapitre, vous allez voir les pratiques que Job faisait. La Bible nous dit que oui, il avait sept enfants. Je vais un peu résumer. Il avait sept enfants, trois filles et quatre garçons. Mais à un moment donné, ses enfants, comme il était riche, il était un homme riche, ses enfants faisaient des parties, comment on dit, parfait, des fêtes, voilà, merci. Il faisait des fêtes, donc ils allaient d'une famille à l'autre pour fêter. Vous savez, quand on a des choses, oui, il faut quand même de temps en temps, oui, célébrer, il faut aussi se réjouir, oui, il faut avoir quand même des bons moments avec la famille. Mais ce qui m'a étonné, c'est que pendant que les enfants se réunissaient, après les fêtes, Job les appelait. Et il donnait sacrifice à tout un chacun. Parce qu'il présumait qu'il pense que pendant la fête, un enfant, un jeune, aurait commis une faute devant Dieu. Il se sentait responsable de faire un sacrifice pour tout un chacun. Donc, je soulève ça pour vous faire comprendre comment cet homme était vraiment honnête devant le Seigneur. Il voulait être honnête et il était aussi devant le Seigneur. Et sa femme le savait aussi. Mais apparemment, sa femme n'était pas aussi croyante au niveau de Job. L'histoire continue nous, en nous disant qu'un jour, oui, Satan se présenta devant le Seigneur et puis le Seigneur commença à vraiment se vanter de la vie de Job. Et est-ce que tu as vu mon serviteur, comment il est? Puis Satan aussi a répliqué que oui, c'est normal parce que tu lui as donné tout ce dont il avait besoin. Même moi-même, si j'étais comme j'étais à sa place, qu'est-ce qui m'empêcherait vraiment de t'obéir? Même, je dirais même, il fait moins que qui devrait faire. Mais Satan ajoute, mais si tu lui arrives un peu, le problème, c'est que c'est toi qui le protèges. Si tu lui enlèves tous ces biens-là, tu vas le voir. Tu vas trouver une autre facette. Et c'est pour cela que Dieu a permis l'ennemi, Satan, d'approcher son serviteur. Il lui a arraché, il a commencé à lui arracher tout dans un laps de temps. Si vous lisez, vous allez voir que Job a réussi dans la même journée même. Dans un petit moment, quatre mauvaises nouvelles qui lui disaient que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait venait d'être décimé, donc venait d'être terminé. De différentes façons, les enfants qui étaient dans la fête, la maison est tombée dessus, les troupeaux qui étaient dehors, il y a eu des gens qui sont venus les enlever. Donc, toutes ces choses-là, dans un petit moment, on lui apporte des nouvelles. Mais Job dit, je suis venu seul. Il continue à témoigner. il continue vraiment à garder sa foi en Dieu. Et l'autre jour, Satan se présenta encore et Dieu continue, il dit, tu as vu? Oui, même si tu m'as vraiment poussé à rester mon serviteur et tu m'as demandé de te laisser faire, de te laisser lui arriver, c'est bien. Mais tu vois que malgré tout, il continue, continue à tenir tout ce que tu pourrais faire. Et puis, pour faire l'histoire courte, Satan a dit, si tu me laisses toucher sa personne, c'est-à-dire son corps, donc je le touchais directement, parce que j'ai touché ses biens, oui, il pense que tu vas lui donner encore plus tard, mais si je touche son corps, tu vas lui donner, tu vas revoir. Et Dieu a accepté, et c'est pour cela que, du coup, Job a attrapé une maladie du peau, de la peau, tu l'as menacé au point où personne ne voulait être à côté de lui. Il était dans la misère, il se grattait tout au long de la journée, et c'est à ce moment-là que sa femme lui approche et lui dit, mais regarde ton Dieu, regarde ce qu'il a fait hier. Ce n'est pas encore fini, on est toujours en deuil. Regarde ce qui t'arrive. La femme lui donne une proposition. Il lui dit, mais à ta place, pardon, je maudirai ce Dieu et je meurs. C'est comme lui dire que tu n'existes même pas. Donc, tu es là seulement pour souffrir. Mais si tu maudis ton Dieu, il va être fâché et puis il va te tuer vite. C'est là que Job a répondu, sa femme est comme ça, que tu parais comme une femme insensée. Si je paraphrase, il a dit, est-ce qu'on doit espérer des bonnes choses seulement de la main de Dieu? Est-ce qu'en Dieu, on ne devrait pas s'attendre à aussi de mauvaises choses? J'ai mis ce texte pour vous montrer que la vie que nous menons en Dieu, il y a aussi des mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Oui, ce n'est pas seulement des mauvaises choses. Au fur et à mesure, on va voir des bienfaits, on va voir des bénédictions. Mais souvent, vous allez voir que même si ce que nous recevons comme bénédiction, c'est pour nous soulager. C'est pour nous montrer, Dieu veut nous montrer qu'il est encore là. C'est comme, vous vous rappelez l'histoire d'Élie. Élie, accablé, fatigué, qui était au point de souhaiter la mort, le Seigneur lui envoie la nourriture encore. Il lui dit, mange, parce que le voyage est encore long. Tu as encore le voyage à faire. Je dirais, tout au long du voyage, tout au long du combat, le Seigneur nous donne des soulagements, des petits soulagements. Sinon, on est la vie. En Christ, c'est un combat. Avant, quand je préparais, je me disais, mais est-ce que je vais. Parce qu'aujourd'hui, parler des mots difficiles, j'aime le dire parce que j'ai trouvé ça, c'est comme la pandémie dans le milieu chrétien. On choisit des fois des messages qui grattent, des messages qu'on appelle doux. Mais j'ai été étonné, vous avez compris le passage que parfait nous a lu. J'ai été étonné, quand je lisais ça, j'ai dit, mais est-ce que Jésus n'avait pas peur que les disciples, c'était au début de son ministère. Quand il leur disait que vous serez bâtis, vous serez maltraités, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'avait pas peur que ce petit, je dirais, ses disciples qui venaient de gagner allaient peut-être fuir à cause de ces gros mots qu'il était en train d'utiliser. Mais je dis, si Jésus n'a pas eu peur de dire, il faut que aussi les chrétiens, les croyants se disent la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité de ce que la parole dit. Jésus leur dit, vous serez maltraités. C'était bien sûr avant qu'il soit mort, il meurt sur la croix. Il était en train de les aviser, de les informer. La vie qu'ils vont mener après lui, après sa mort. Il voulait dire donc, la vie n'est pas rose, c'est pas. Oui, peut-être avant, certains d'entre eux venaient à Jésus en pensant que c'est le sauveur, il va prendre le pouvoir, et puis certains vont être des ministres à côté de lui, mais il leur dit, tenez bien, vous allez être maltraités. On va vous haïr à cause de moi. On va même vous mettre en prison. On va vous tuer même. C'était des mots difficiles à digérer pour les disciples. Mais malgré tout, ils ont tenu. Parce que la vie en Christ, c'est comme ça. C'est une décision d'abord. C'est une décision qu'il faut prendre. C'est comme un soldat. Un soldat qui est recruté, quand il arrive au champ de bataille ou bien dans les camps d'entraînement, on ne va pas lui dire que oui, quand même, on va avoir des sorties 3 fois par semaine. Oui, on va vous donner des langues. Et, ben, après un certain moment, ce n'est pas seulement ça. On va lui dire qu'il va faire face au combat. Il va être sa vie. Ça va être la grande partie de sa vie sera le combat. Et les gens qui acceptent d'aller, s'ils ne sont pas forcés, c'est qu'ils ont compris, ils sont déterminés, ils savent dans quoi ils vont embarquer. Ils savent que, oui, tout le monde va mourir, mais eux, c'est comme s'ils sont dans le champ de la mort. Ils le savent. C'est comme ça que Jésus considérait ses disciples. Oui. Il faut être comme des soldats. Même dans les épîtres, Paul a souvent utilisé et a exhorté les croyants d'être comme des soldats, de savoir que la vie en Christ, la grande partie, c'est le combat. Parce que quand vous acceptez Jésus-Christ, c'est que vous êtes maintenant, vous vous manifestez contre Satan. On se manifeste, on se dit, Satan, maintenant, je ne suis plus dans ton environnement. Je vais te combattre. C'est là que maintenant, l'ennemi aussi va s'organiser. Il va organiser, bien sûr, un combat contre toi. Il va organiser des batailles. C'est pour cela que la majorité des gens, ici peut-être vous, c'est pas beaucoup, mais ou bien ça vous est arrivé, il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont, par exemple, dans une famille tranquille, une fois qu'ils décident de suivre Jésus, de vivre en Christ, la famille commence à les rejeter. Vous allez écouter des témoignages comme ça. Ou bien dans les milieux où ils ne croient pas en Dieu. Si quelqu'un de la famille se détermine, se déclare qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je suis le Seigneur, je veux suivre le Seigneur, ils vont commencer à avoir des menaces. Mais tout ça fait partie de la vie en Christ. Le défi que nous avons aujourd'hui, alors, dans nos églises, en tant que croyants, c'est que, oui, on nous a dit que, oui, en Jésus, quand on reçoit, on accepte Jésus, oui, on change. La vie, les choses anciennes sont passées, voilà. On commence une nouvelle étape. Tout est nouveau. Mais ça reste théorique. La pratique est toujours difficile. Les chrétiens veulent vivre une vie de dehors, mais en Jésus-Christ. Ça m'a rappelé une petite anecdote. Peut-être que vous connaissez ça. D'un enfant qui aimait beaucoup la banane. Hein. Je ne pense pas que ça soit un enfant d'ici parce que. C'est de l'autre côté. Il aimait beaucoup la banane, mais aussi, il aimait faire le verre. Son papa savait que vraiment, c'est deux choses qu'il aimait beaucoup. Un jour, son papa a voulu vraiment savoir, c'est quoi mon enfant, un maître de la banane ou fait divers. Il lui dit à mon fils, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que tu choisisses entre la banane et le verreau. Aujourd'hui, tu ne vas pas avoir le deux. Soit tu choisis, fais le verreau, je vais te laisser, ou bien manger la banane. Ça a été un test très difficile. Et enfin, quand il était au point de choisir le verreau, il commençait à sentir le goût encore de la banane dans sa bouche. Mais il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais choisir? Quand il va choisir la banane, il dit, ah, il se rappelle comment encore faire le verreau, comment c'est bien. Et puis il a dit, papa, tu sais, je vais manger la banane en faisant le verreau. Donc, il n'a pas pu choisir. Il n'a pas pu choisir. Et quand je dis les chrétiens, nous voulons vivre une vie de dehors, mais en Christ. Parce que peut-être ici, vous n'allez pas le comprendre, mais ailleurs, dans d'autres coins du monde, être un chrétien, c'est comme quelque chose normalement. Oui, quand on est chrétien, quelquefois, oui, on te traite de bonne personne. Oui, tout le monde veut s'habiller ce costume d'être chrétien, mais qui ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voulons importer la vie du monde et la vivre en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, nous savons que quand on est chrétien, on doit changer. Oui, Jésus nous change. Jésus nous donne non seulement la vie spirituelle, mais la vie éternelle, mais aussi, il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler. Mais comme c'est difficile, ou bien comme on aime ça aussi, on préfère venir avec et les vivre maintenant en Christ ou bien à l'église. Pourtant, comme je vous ai dit, la Bible nous dit que dès que quelqu'un est uni au Christ, il est né très nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est là qu'on peut trouver ça. Il y a aussi des enseignements qui font croire aux gens que oui, si on est en Christ, tout est facile, tout va bien aller. Oui, aujourd'hui, vous allez entendre dans le pays où peut-être avoir accès à la voiture, on va vous dire que oui, venez à Jésus, Jésus va vous donner la voiture. Venez, si vous n'avez pas, vous habitez ou bien vous vivez dans les coins où c'est difficile à accéder à la propriété. À la maison, on va vous dire, oui, Jésus donne des... Oui, c'est vrai, il donne ça. Mais ce n'est pas la priorité pour un vrai croyant. Ça, c'est des choses comme supplémentaires. Ce que Jésus, ce qui intéresse Jésus, c'est notre vie spirituelle. C'est de nous sauver en premier. C'est de vivre une vie de sainteté. Et vous savez, quand Jésus même était sur terre, il y avait des pauvres. Il y avait même beaucoup de sa génération qui étaient pauvres, qui sont grandis pauvres et mères pauvres. C'est comme ça que le monde est fait. Et ce n'est pas qu'ils étaient pécheurs. Non. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde a ses réalités. Oui, on peut travailler et Dieu peut te bénir. Mais il ne faut pas penser que la vie en Christ, c'est avoir des choses matérielles. Il y a aussi alors ces enseignements qui souvent sont enseignés dans beaucoup de nos églises et les gens commencent à prier, ils passent des moments d'intercession dans des locales de prière. Vous allez entendre quelqu'un dire qu'il est intercesseur, mais la majorité des cas, il priait pour avoir des maisons, pour demander les visas, demander. Et on est intercesseur. Je m'excuse, je ne pense pas que ce soit l'objectif d'être intercesseur. Donc, je vais vous montrer à quel point que le monde, ou bien qu'il y a beaucoup d'hérésies qui veulent nous dérouter de la vraie, vraiment, le vrai message, ou bien la réalité des choses. En bref, on cherchait des pains et non Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus a donné des pains à à partager ou à multiplier des pains. Quelques jours après, il a commencé à avoir des foules. Beaucoup de monde sont venus. Beaucoup, beaucoup. Un jour, les gens parcourent plusieurs kilomètres à le chercher. Et quand ils arrivent, ils disent, Jésus, où étais-tu? On t'a cherché. Ils commencent à raconter les endroits où ils ont été pour le chercher, pour le trouver, mais que c'était difficile de le trouver. Jésus leur dit, parce qu'il voit l'intérieur, il leur dit, ah, est-ce que c'est moi? C'est à cause des pains que vous me cherchiez. Donc, c'est ça. Les gens, à cause des faux enseignements, ils pensent que vivre en Christ, c'est avoir des pains du monde, manger, voyager, avoir des choses comme. Je ne suis pas contre, moi aussi j'en veux. Mais pour nous les croyants, il faut différencier ça avec la vie en Christ. La vie en Christ n'est rien à voir avec la possession des biens matériels. C'est loin que ça. Jésus nous appelle à la sainteté. La vie en Christ, comme Job a dit, c'est un combat continuel. Je vous le dis, c'est un combat continuel. Prenez les exemples, regardez les exemples à partir de l'Ancien Testament jusqu'à la fin. Regardez la vie que Paul menait, l'apôtre Paul. Paul menait une vie misérable. Pierre, même tous ces disciples-là que Jésus a adressé la parole, regardez comment ils ont survécu. Ils n'avaient pas, c'est vrai, c'était l'époque où il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui, mais ils ont parcouru des montagnes, des collines pour apporter l'évangile. Amen. Parce qu'ils avaient compris le vrai message, ils avaient compris leur mission. Leur mission, c'était pas d'avoir des choses ici. Mais il visait plus loin, il visait plus loin après la mort. C'est pour cela qu'ils se battaient. On les mettait en prison. Mais quand ils sortaient encore, ils continuaient, ils faisaient la même chose. Et les mêmes, je dirais, si je veux dire, les mêmes crimes qu'on les avait mis en prison, dès qu'ils sortaient, ils continuaient. On les tabassait. Mais à peine qu'il soit guéri, il continue encore. Si vous regardez les vies, c'était vraiment une vie difficile. Mais je ne veux pas dire que c'était difficile, parce que quand on vit avec Jésus, quand on vit une vie avec Jésus, c'est sûr que c'est Jésus qui était en nous. Parce qu'il y a des choses même qu'on voit qu'ils ont fait, qu'humainement parlant, qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils avaient accepté que Jésus soit en eux pour vivre la vie de Christ, sa vie, la vie à lui. Alors, c'est ça qu'il nous faut. Je vois que, oui, c'est un message que peut-être qui est dur à comprendre, mais il faut comprendre ça. Je vais vous dire que ce n'est pas seulement ça, Jésus. En Jésus aussi, il y a de bonnes choses. Quand j'aurai une autre occasion, on va aller en détail, vous connaissez. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous avons vues parce qu'on est en Christ. Mais ce que j'insiste encore, c'est que ce n'est pas ça les priorités dans notre vie. Les priorités, c'est vivre selon la volonté de Jésus. Et les choses, comme il a dit dans Matthieu, d'autres choses viendront par-dessus. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait, un chrétien doit faire et mettre en priorité. C'est plutôt une vie qui plaît à Dieu et les choses viendront par-dessus. Et comme j'ai dit, ces choses viendront pour nous faciliter certaines choses pour continuer maintenant à avancer avec le Seigneur. Pour terminer, Jacques aussi a dit des bonnes choses. Parfait, tu peux nourrir les Jacques. Et pour terminer, c'est Jacques. Chapitre 1, verset 2, lui aussi avait compris la vie en Christ.
Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés.
Amen. C'est ça, lui aussi il avait compris. a dit, même si vous êtes entouré des épreuves différentes, ne pense pas que vous... Donc, des fois, Satan a peur, comme l'histoire que nous avons lue au début, Job, il avait trois amis, vous allez lire l'histoire. Mais quand ils ont trouvé dans cette épreuve, ils vont commencer à dire non, 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 non. À personne. Ces choses-là doivent avoir une raison vraiment. Il y a une raison pourquoi le Seigneur a fait ces choses pour toi. C'est vraiment, tu as péché. Tu as péché, il faut te repentir. Donc, pour eux, ils ne trouvaient pas la raison qui pourrait justifier les épreuves, que si ce n'est pas un péché. Alors, je vais vous dire comme Jacques, il a dit, ne soyez pas étonnés. Si vous vous retrouvez entouré des épreuves, mais c'est un sujet de joie. Je vais vous dire que c'est une chose qui montre que maintenant vous êtes en Jésus-Christ. Vous menez une vie en Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, oui, il n'est pas content. C'est sûr qu'il va vous apporter, il va vous combattre. Si vous vous retrouvez dedans, c'est pour cela que Jacques disait que ce soit un sujet de joie. Ne vous inquiétez pas. C'est que bien sûr, vous n'êtes pas du côté de l'ennemi. Vous n'êtes pas du côté de Satan. Persévérez. Parce que c'est là où on est, à la place où Jésus veut que nous soyons. Amen. Amen. Oui, ça peut être un cas pour nous. Peut-être on passe des moments difficiles. Mais ne te décourage pas. Ne pense pas que tu n'es pas beau. Il faut pas accepter que Satan te culpabilise. Te dire que oui, tu as péché, c'est pour cela que tu vis de telles choses. Non. La vie en Christ, c'est un combat. Toutes ces choses doivent arriver. Mais l'apôtre Paul a dit aussi que toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour le message. Fais ce que tu as voulu faire avec ce message. Et je te prie que tu bénisses tout ce que tu as entendu et que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre, même après qu'on sorte, après qu'on se quitte, que le Seigneur continue à travailler. Et je sais que le Saint-Esprit est capable de nous convaincre. Je prie, Seigneur, pour les gens qui peut-être traversent des moments difficiles, qui sont dans des situations où l'ennemi les culpabilise. L'ennemi veut en profiter pour leur montrer qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ont péché, mais que son message puisse leur être un sujet d'encouragement. Qu'ils sachent que ça fait partie de la vie en toi. Mais que tu es à côté d'eux, que tu es avec eux dans cette épreuve, qui vont sortir victorieux, victorieuses. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.